Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Le grand débat est-il un grand déballage, un grand bond en avant ou un grand n'importe quoi ? Selon les chiffres du gouvernement, plus de 6000 réunions ont été ou vont être organisées et près de 1,7 million de visiteurs se sont rendus sur le site du Grand Débat, dont 320 000 inscrits sur la plateforme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacun ou chacune, presque, peut organiser son petit ou moyen grand débat. Il suffit de saisir une association, une entreprise, une collectivité, de s'enregistrer, de correspondre aux critères de la charte du grand débat national et on reçoit un kit méthodologique, un guide de présentation des grands thèmes retenu par Emmanuel Macron. Évidemment, les questions sont un peu orientées. Par exemple, il y a « Quel impôt faut-il, à vos yeux, baisser en priorité ?» Et il n'y a pas la question « Quel impôt faut-il, à vos yeux, ajouter ou rétablir ?» Mais en gros, il y a quatre thèmes assez variés. Transition écologique, démocratie et citoyenneté, l'organisation des services de l'État et des services publics et enfin la fiscalité et les dépenses publiques. Pour en savoir plus donc sur ces grands débats et l'avenir de notre démocratie, nous nous sommes rendus dans une grande agglomération et une petite commune, à Trenay dans la Nièvre, 160 habitants, et à Paris dans le 8e arrondissement. Le premier grand débat, c'est donc rue de la Boétie, au cœur de la capitale. Nous sommes dans un lieu qui s'appelle l'Open Mind Café, spécialisé dans le co-meeting et le management. Le patron et fondateur, Xavier Ginoux, s'est tout naturellement inscrit sur le site du Grand Débat National pour faire le sien. Le thème ce soir-là, c'est la fiscalité. L'endroit est confortable, haut de plafond, les couleurs sont vives et le rouge très présent. Parce que, dit-il, le patron, ça aide à la prise de décision. C'est un premier récit de Rémi Dibowski-Douat.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Alors, on a donc quatre grands sujets qui sont des sujets de transformation de notre société. La fiscalité et les dépenses publiques. Donc, deux questions. Quelles solutions concrètes et innovantes proposer pour rendre notre fiscalité plus juste et plus efficace? Quelles solutions concrètes et innovantes proposer pour optimiser la dépense publique tout en organisant mieux notre pacte social? Donc, la démarche en intelligence collective, comme vous le voyez ici, c'est de regarder finalement toutes les composantes que nous sommes, tous les acteurs que nous sommes, tous les sujets que nous portons. Et on va vivre ça en dynamique collaborative, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs temps, des temps où on va mettre l'accent sur telle nature de questionnement, puis on va tenter de progresser ensemble comme ça. Vous allez voir un petit peu, quand on se met en dynamique collaborative, ça permet d'être plus pertinent et plus rapide.
Dans quelques minutes, on va faire des premiers échanges par pair. On appelle ça conversation citoyenne, ça va durer quelques minutes, mais ça permet à tout le monde de se mettre dans le bain. La deuxième partie, ça va s'appeler le café des priorités. On va vous demander de vous mettre par sous-groupe et en effet de, quelque part, reformuler le sujet dont on parle. Donc en effet, faire ressortir un certain nombre de thèmes sur « attention, ce qui est important à traiter, c'est ça en priorité ou ça en priorité ». Et après, en fait, dans le forum des solutions, on va reformer des groupes. Et là, les gens iront dans les groupes qui les intéressent le plus en termes de sujets à débattre pour arriver à élaborer un certain nombre de solutions. C'est clair pour tout le monde ?
Bon. En fait, moi, ce que je propose pour aujourd'hui, très simplement, c'est qu'on soit en authenticité. Vous êtes d'accord si on était chacun nous-mêmes ce soir ? C'est important d'être soi-même parce que ça permet d'échanger vraiment profondément avec l'autre. Et c'est ce qu'on va chercher à faire. Et on va faire ça sur quoi ? 2 heures à peu près, hein ? On a prévu ? Bon.
Ça vous va ?
Vous êtes prêts ?
Ça va être très choquant de dire ça, je le sais, mais... Il y a un certain nombre d'entreprises qui réfléchissent régulièrement à leur organisation par rapport aux évolutions des marchés et de la différenciation et de la valeur ajoutée qu'on produit. Donc elles s'adaptent sans arrêt à l'organisation, à la valeur ajoutée à produire. Et donc on change l'organisation, on bouge, on peut réduire des effectifs, les augmenter. Moi je pense que la République devrait être sous la même règle, de gérer le plus possible les services de l'État comme des entreprises ou comme un bon père de famille avec la gestion de son budget familial, de sa famille, quoi. Donc on ne peut pas avoir 1 million de dettes quand on gagne 3 000 euros par mois. C'est pas possible. Je m'aperçois à quel point on a des vrais problèmes d'organisation chez les fonctionnaires où la sécurité de l'emploi détruit de la performance, détruit de l'envie au travail et le fait qu'on ne s'occupe pas suffisamment des gens et de leur employabilité, on n'en a rien à foutre. Et c'est dramatique parce que les gens ne sont pas aidés dans leur développement personnel. Il y a des gens qui sont 40 ans à la même fonction et qui se désagrègent petit à petit et c'est scandaleux. Et donc il faut faire en sorte qu'ils puissent changer et partir ailleurs. Et s'ils ne donnent pas satisfaction à un endroit, ils partent et éventuellement dans le public. Les entreprises privées fonctionnent comme ça. À un moment, si vous êtes sous-performant, il faut prendre des décisions parce que collectivement, tout le monde en pâtit. Et donc, il faut créer des ponts entre le public et le privé, arrêter ces statuts et faire qu'on travaille dans la fonction publique. Et c'est très facile d'aller dans le privé et réciproquement. Et ça ferait un bien fou à tout le monde.
Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie ?
Je suis consultant. Je fais travailler les entreprises sur leur vision, leur projet collectif, la cohésion des managers et l'engagement des salariés dans l'entreprise. J'ai un niveau de diplôme très élevé et très demandé, ce qui m'a amené à créer ma propre entreprise.
Vous arrivez à vous payer combien tous les mois ?
À peu près 8 000 euros. En net. Et là, la personne qui pose des questions me regarde avec un air en disant... 8 000 euros, le salopard. Il y a un truc qui me choquait dans le discours que j'entends. Il faut plus de justice fiscale. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, bordel ?
Et j'ajouterais plus, est-ce que c'est le rôle de la fiscalité d'être juste ? Beaucoup de Français sont partis dans une fausse direction qui est de dire l'impôt, ça doit servir à me donner de l'argent, en gros. C'est-à-dire à redistribuer. Un tel gagne plus que moi, c'est pas juste. Il n'y a aucune raison qu'il gagne plus que moi. Donc, par l'impôt, on doit me prendre son argent et me le donner à moi.
Je vais prendre l'exemple de l'ISF. Pour moi, l'ISF, c'est l'impôt le plus injuste qui puisse exister. Et en plus, inefficace. Et c'est là où on voit que c'est incroyable. Parce que moi, j'entends parler, il faut rétablir la justice fiscale avec l'ISF.
Mais sur l'ISF, si vous voulez, moi, ce qui me choque, c'est que dans l'ISF, les gens qui ont accumulé une fortune l'ont fait avec des revenus qui ont déjà été taxés.
Absolument.
Donc, vous avez déjà payé les impôts, un taux qui n'est pas forcément négligeable. Vous avez tout payé, vous vous achetez une maison, vous achetez des actions, et hop, on vous retaxe. Et chaque année, ça recommence. Ça devient lourd, quand même.
Ça devient absurde.
Et en plus, c'est inefficace. Puisque les gens qui gagnent vraiment de l'argent, ben ils s'en vont. Dans les 40 plus grandes fortunes suisses, il y en a 20 Français. Donc ils sont partis, donc ils ne payent plus d'impôts sur le revenu, plus d'ISF, plus rien. Là, on a vraiment perdu de la substance importante pour une injustice, en fait. Donc c'est pour ça que l'ISF est inefficace.
Moi, la question que je me pose, c'est comment on arrive à un alignement sur ce qui est juste.
Qu'est-ce qui est juste ? Mais voilà. Ça, c'est une question... que beaucoup de philosophes ont cherché à résoudre. Il y en a qui ont écrit 3000 pages
qu'est-ce
sur le sujet
justice?
Et on demande une petite fiche, on ne parle jamais. Par rapport aux autres pays, nous sommes ceux qui indemnisons le chômage le plus longtemps, en moyenne, hein, puisqu'on est à 2 ans et 3 ans pour les vieux. Et aussi, on est ceux qui indemnisent le plus pour les hauts salaires. Donc on pourrait réduire, oui, proposition simple, réduire la durée du chômage maxi à 1 an. 1 an, voilà, vous devez être capable de retrouver du travail. De toute façon, si vous, on sait bien aussi que si vous chômez 1 an, vous allez chômer 2, de toute façon. Je veux dire, et dans quelques cas, peut-être pas la majorité, mais un nombre significatif, ça devient une rente. Des gens qui se disent, bon, ben, je prends mes 2 ans de chômage et puis on verra.
Et tu restes chez toi et tu as des aides et des machins, tu travailles au noir, tu travailles 2 ans là, et puis tu te mets au chômage. Enfin, tu vois, c'est complètement pervers.
Tu vas écrire la fiche. Cette fois, je m'y colle.
Description, c'est remplacer RSA. Ça existe encore le RMI ou quelque chose ? Remplacer les aides sociales actuelles, entre parenthèses RSA, chômage, allocation familiale, etc., par une aide unique construite sur la base de ce qui est nécessaire pour vivre. Objectif, augmenter le sentiment de justice de ces aides. Voilà. Et les commentaires, vous pouvez avoir ça pendant un an, votre minimum vital. Mais si vous ne bossez pas au bout d'un an, il devient 80%. Je le réduis. Et l'année d'après, c'est 50%. Ça veut dire qu'on accepte le fait qu'il y a des gens qui ne sont pas au minimum vital. S'ils refusent de travailler. Ou alors, c'est les travaux forcés. Le principe, quand même, c'est qu'il faut bosser pour vivre.
Il y a quand même une, pas forcément complètement une logique entre l'effort et le revenu, mais quand même un peu, moi, je dirais, quand même. Hein.
Mais j'allais dire, peut-être que si le chauffeur d'Uber, il avait travaillé mieux à l'école, il aurait une meilleure situation, il pourrait, comme monsieur, travailler moins et gagner plus.
C'est une règle simple. Tout ce que tu peux gagner, il y a 50% qui est dû aussi à ton éducation, la chance ou la malchance que tu as eue, et il y a 50% qui dépend de toi.
C'est difficile de mettre un pourcentage, mais on a quand même en France un système scolaire qui, à mon avis, permet à tous de réussir un minimum. Effectivement, tout le monde ne peut pas faire polytechnique ou être agrégé, ok, mais je pense que tout le monde peut aller sur un niveau de BTS, par exemple, si on travaille. Et un niveau de BTS en France, c'est un diplôme qui permet à tous les coups de gagner d'avoir un emploi. Il y a pratiquement pas de chômage dans les BTS. Et à tous les coups de gagner sa vie de façon décente. Je veux dire, on commence probablement à 1500 euros et on est à, voilà, on va terminer à 2500 ou 3000. Mais bah, tu vas gagner ta vie. Plombier, ça va gagner sa vie, etc. Donc, bien sûr. Et donc voilà, mais les gens ne veulent pas faire ça.
Vous aviez vu dans Le Monde, il y avait un reportage du Monde sur une famille où il y avait 4 ou 5 enfants avec 2000 euros par mois, dont plus de la moitié en aide sociale. La femme ne travaillait pas et ils se plaignaient de ne pas pouvoir offrir à leurs enfants, qui avaient tous moins d'une dizaine d'années, des vêtements de marque, qui ne pouvaient pas se payer les 70 euros d'abonnement mensuel de téléphone portable. C'est-à-dire pour cette famille-là, ça va être difficile d'arriver à un minimum
si, parce que
à reste à vivre qui leur convienne.
Il y aura quelque chose d'objectif où on va décider que le minimum vital, c'est pas avoir les fringues Nike. Et ben c'est en ce sens qu'il faut quelque part que ce débat ait lieu pour dire, attendez, vous êtes sur quelle planète ?
Il faut marquer un truc, hein. Il a dit qu'il faut rester.
D'abord, on va faire un test numérique, parce que on va faire une restitution dans un instant à travers nos outils, simplement pour que les réponses de table viennent directement, qu'on puisse faire un classement. Eh bien, on vous invite à vous connecter directement sur une application qui s'appelle Yellow. Une personne par table vient ici avec son téléphone, vient flash-coder, comme on dit, l'écran pour avoir le flash-code. Et normalement, ça se connecte tout seul. Et ensuite, vous accédez directement à des post-it numériques. Vous voyez, là, instantanément, pouf, ça sort, c'est numérisé. Et vous avez le droit de changer même la couleur du post-it. Enfin, il y a des fonctions pas possibles, incroyables. C'est une manière de co-écrire et de co-réfléchir. On est bon, tout le monde s'est connecté ?
À 280 km de là, entre Nevers et Moulins, tout au sud de la Nièvre, traînaient ses 160 habitants officiellement, 140 à l'année. Plus d'école primaire, plus de postes, plus de perception, pas de fibre et la 4G qui arrive difficilement. Ici, on vit de l'agriculture, de la charolaise et de l'activité routière, car Trenet est traversé par la fameuse Nationale 7. Samedi 9 février, à l'initiative du maire Christian Guillon, 52 personnes sont réunies dans la salle des fêtes. Parmi eux, une vingtaine d'habitants de Trenet, une vingtaine d'habitants des communes limitrophes, quelques personnes du département de l'Allier, deux maires, le président de la communauté de communes et l'un des deux députés de la Nièvre, Patrice Perrault. Nous sommes autour d'une table en U. Le maire est très discipliné. Il commence par lire la charte du grand débat qui est fournie avec le kit. Et voici donc 37 questions à traiter en 2 heures, finalement 3, un récit et quelques extraits choisis par Valérie Borst.
Merci d'être venus très nombreux pour assister à ce grand débat. Notre député ici présent sera un bon relais entre nous et le gouvernement. Nous n'attendons pas de miracle dans l'immédiat, mais nous serons sûrement entendus. Dans le cadre du grand débat, 4 thèmes avaient été mis en avant. Nous avons choisi démocratie et citoyenneté. Il y a un panel assez large de questions. Donc, première question. Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les représentent?
Oui. Cette question, pour moi, elle vaut absolument rien, parce qu'il me semble qu'il y a un décalage énorme et une incompréhension du haut niveau de nos dirigeants au bas niveau que nous sommes. Il y a une chose là qu'on ne comprend pas, comment sont prises les décisions en haut lieu, sans qu'on soit nous-mêmes informés ou même concertés. On n'a aucune information lorsque simplement la loi est votée et qu'on doit subir. Par exemple, pour la diminution des 80 km/h, on nous a imposé cette loi après un essai d'un an sur certaines départementales du département. Là, cet essai, c'était un accord, c'était normal qu'on essaie de faire quelque chose. Mais le reste de la loi qui est passée sur toutes les départementales, on n'en a jamais entendu parler. Que pour la mise en application.
Donc juste de concertation en amont.
Oui.
Je voudrais simplement apporter un témoignage par rapport à la loi NOTRe, la nouvelle organisation territoriale. J'en suis à ma 30e année de maire. J'ai un certain recul. Je n'ai jamais vu une loi aussi importante se voter avec autant de rapidité sans qu'on ait interrogé les élus locaux et en particulier les élus ruraux. À tel point que aujourd'hui, nous nous voyons infliger des réformes que nous n'aurions sûrement pas souhaitées et qu'elles se sont faites à la hussarde, sans concertation.
Moi, je dirais que la parole, elle doit se partager. Parce que, monsieur le maire, vous nous dites bien que la parole, elle n'a pas été partagée avant de mettre sur pied le projet NOTRe.
La loi NOTRe, non, pas du tout.
Il n'y a pas eu de partage de la parole. Et donc, pour éviter des malentendus entre les élus et les citoyens, moi, je pense qu'il est nécessaire de partager la parole avant. Avant.
Moi, quand je change l'organisation de la France, franchement, ce n'est pas mon problème. Si c'est plus efficace, tant mieux.
Alors, la loi NOTRe, pour préciser, monsieur, c'est important. C'est la nouvelle organisation territoriale. C'est la nouvelle organisation de la République. Ça nous concerne tous. Ça a été le découpage des cantons, ça a été le rapprochement des régions, ça a été aussi le changement des compétences, à tel point que vous avez pu remarquer que vos redevances, ou disons taxes d'ordure ménagère, ont changé, tout simplement parce qu'on nous l'a imposé, etc., etc. C'est tout un tas de compétences qui ont été supprimées à telle ou telle collectivité pour être remises à telle autre. On a longtemps pensé, longtemps dit, qu'on allait supprimer à la fois les communes et les départements. La commune, eh bien, encore... Ils ont le dernier rempart de la République, de la démocratie, c'est ce à quoi il faut être très attaché, me semble-t-il, puisque, justement, la proximité de vos élus n'est nulle part ailleurs aussi aiguë qu'au niveau des communes. Si vous voulez rencontrer vos élus, vous pouvez le rencontrer tous les jours.
Bon, on va passer à une autre question. Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires, députés et sénateurs est une bonne chose, une mauvaise chose, ou ne sait pas. Pourquoi? Qui veut s'exprimer?
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas?
Je ne sais pas, tout simplement parce qu'en fait, on pensait que c'était une bonne idée, et en réalité, on s'aperçoit que ça crée un fossé. Il vaut mieux avoir un député-maire qu'un maire tout seul et un député tout seul. Parce que finalement, le maire, il est en contact avec ses administrés et en même temps, il peut s'asseoir à l'Assemblée et avoir une connaissance du terrain beaucoup plus précise. Alors qu'il y a encore quelque temps, on disait le contraire, qu'il fallait les séparer. Alors,
est-ce qu'on ne reprocherait pas alors aux députés, par exemple, de La République En Marche, de ne pas avoir de mandat et d'être complètement à l'écart des problèmes des gens et des citoyens de la France, finalement, de la France?
Eh ben, il faut absolument qu'il y ait un cumul.
un cumul, mais pas forcément de maire et député.
Pas forcément, mais
parce que,
il faut un cumul.
À mon avis, il peut pas, vu la grandeur des départements, la réduction des députés, il ne peut pas tout assumer. Les journées, pour lui comme pour moi, font 24 heures, pas plus.
Il est parfois horriblement choquant de voir des lois votées par des assemblées quasiment, enfin, on ne va pas dire vides, mais même pas remplies à moitié. Et ça, pour le citoyen que je suis, ça me scandalise. Parce qu'on a l'impression que les gens qu'on a votés, ils s'en fichent complètement et qu'ils ne font pas leur boulot.
Est-ce que, monsieur le député, vous pouvez nous donner une réponse, une explication?
L'explication vous satisfera ou pas, puisque je suis député de la majorité. Hein. On a 2 jours de présence obligatoire, mardi, mercredi, et les débats, parfois, dépassent largement ces 2 jours-là.
Ils sont payés quand même. Les lois, elles sont votées par une poignée de gens.
À titre d'exemple, la semaine prochaine, je pars lundi midi, je crois, et je ne sais pas quand je rentre. Ça veut dire que toute cette semaine, je n'ai pas pris d'engagement en circonscription. Par exemple, si M. le maire de Trénée avait fait son grand débat vendredi prochain, je lui aurais dit, ben voilà, sous réserve. Parce qu'effectivement, c'est la semaine où je vais me consacrer sur un texte, hein, qui sera l'école de la confiance, tout au long de la semaine. Et là, je serai présent à l'ensemble des séances.
Je comprends très bien. Et quand je vois une Assemblée nationale avec si peu de députés dedans pour voter quelque chose, je me dis, où sont ceux qui nous représentent?
Le jour de vote, par exemple, le vote de mardi sur la loi dite anticasseur, c'est 170 députés qui étaient présents.
Oui, alors il y a l'importance aussi. Hein. Quand c'est des petites lois en loose day comme ça, bon, on passe à côté. Hein.
Donc on passe à une autre question. Pensez-vous qu'il serait souhaitable de réduire le nombre de parlementaires, députés et sénateurs? Il y en a 925 en tout. Il y a 577 députés et 328 sénateurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui ou non? Est-ce qu'on réduit le nombre? Oui ou non?
Bah oui, oui. On veut faire des économies.
Allez, on lève les mains, là.
Oui.
Qui est pour réduire?
Alors, je ne sais pas si...
5 contre. Et vraiment une très large
majorité pour le oui.
Une très large majorité.
Monsieur le maire, si je peux me permettre. Alors là, maintenant, on veut réduire à l'Assemblée ou au Sénat. Puis après, on va dire, ah oui, mais on n'a pas assez de députés, on n'est pas assez visités, ils sont trop loin, etc., etc. Alors, il faudrait savoir, nous, Français, ce qu'on veut.
Hein? Oui, mais le problème, vous dites, vous êtes 577 députés. Donc, vous êtes 348 sénateurs, donc, à quelque chose.
328.
Donc, le problème en France, c'est vos salaires. Vous avez une indemnité parlementaire, une indemnité participative liée à tous vos besoins. Vous avez un crédit collaborateur.
Crédit collaborateur.
Voilà. Le problème en France, c'est que vous avez des sommes astronomiques tous les mois, sachant que 75% de la population vit en dessous de 1500 euros. Alors que la plupart qu'on voit dormir à l'Assemblée, qui sont en train de se prendre en photo et se balancer sur Internet, je veux dire, vous êtes assidus, je le sais, de source. Mais je veux dire, il y en a plein qui servent à quoi? On les paye pour quoi faire? Vous êtes 2 sénateurs, 2 députés dans la Nièvre. Si on prend la région Île-de-France, Hauts-de-France, je veux dire, il y en a, ils ne servent à rien, finalement.
Bon, on a entendu le message. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer sur ce sujet? Donc on va aborder le dernier thème, immigration et intégration. Qui faut-il accepter? Est-ce qu'il faut accepter tout le monde? Est-ce qu'il faut des quotas? Est-ce qu'il faut... Bon. Et une fois qu'ils sont là, qu'est-ce qu'il faut faire pour les intégrer, faire en sorte qu'ils vivent comme nous tous?
Alors on a le premier qui va... essayer de dire quelque chose là-dessus, il va être raciste.
Hein. Non, non. Alors ça...
Il faudrait déjà établir un quota, parce qu'on ne peut pas accueillir toute la misère. Ils sont plutôt bien traités, quand même. 1 000 euros par mois, dès qu'ils ont le pied sur le territoire, on va dire qu'ils sont pas mal logés. 1 000 euros par mois, on leur donne à tout pot.
25 euros par jour à Varennes.
Je demande à l'assistance... Quel est le seuil de pauvreté en euros en France?
1 100 euros.
Alors c'est 855 euros. J'ai cotisé 50 ans, j'ai eu 772 euros, Et au mois de juin, nous avons touché 30 euros de plus. Ça me fait 802 euros. C'est pas pour autant que je fasse des banderoles et que je fais de la bagarre. Mais il est évident, quand on connaît les 680, je crois, d'Amboulins qu'il a fallu loger, c'est hallucinant. Étant donné que j'ai quand même un loyer à payer, etc., etc. Hein, j'ai ma vie, quoi. Il ne me reste plus rien. C'est hallucinant, les différences.
Et donc, il faudrait qu'il y ait quelque chose d'institué de façon à pouvoir limiter cette immigration qui nous coûte la peau des fesses. Qu'est-ce qu'on nous voit arriver, là ? Des gars frais et dispo, bien sapés, avec des téléphones portables dont je n'ai pas le même, hein, et ainsi de suite. Moi, je ne peux pas l'admettre. Je n'ai rien contre ces gens. Bien au contraire, je suis prêt à les accueillir, mais à condition qu'il y ait une limite. Et actuellement, on dépasse les limites. Quand ils arrivent en France, ils ne respectent pas nos us et coutumes. Aucun. Voilà. Et donc, il faudrait qu'il y ait quelque chose d'institué de façon à pouvoir limiter cette immigration qui nous coûte la peau des fesses. Hein ?
Est-ce que d'autres souhaitent intervenir sur ce thème d'immigration ?
Il y a moins de problèmes avec les Européens qui sont arrivés en France que maintenant toute l'Afrique du Nord et l'Afrique qui arrivent. Il n'y a pas eu de problème avec les Polonais, les Espagnols et tout ça. Pourquoi il y a des problèmes maintenant ?
Un problème d'intégration, volonté de s'intégrer.
Ben oui.
Mais là, il y a un problème aussi de religion.
Une grosse population africaine qui vient chez nous parce qu'on leur rabat les oreilles que la France est un pays de cocagne et des droits de l'homme. Ils arrivent ici, ils ont traversé la moitié de l'Afrique à pied, ils ont risqué leur vie, quelquefois ils ont été esclaves en Libye, ils ont des passeurs qui les détroussent, et quand ils arrivent ici, ils sont franchement quelquefois très déçus. Et je pense qu'on devrait faire une publicité sur notre pays. On fait une publicité inverse, pour leur dire que nous avons des problèmes actuellement.
Donc là, il y a eu un débat entre nous, un débat assez riche sur ce thème citoyenneté et démocratie. Mais si vous avez quelques questions autres que vous voulez aborder très brièvement, c'est totalement ouvert. Vous dites ce que vous voulez. Allez-y.
Je n'habite pas cette localité. J'habite Poulain. Je suis venu par curiosité pour voir quelle était la constitution de ce panel. Et je me dis, est-ce que vous avez des jeunes gens dans votre village ?
La réponse, c'est oui. Mais monsieur,
où sont-ils ?
Et tout le monde a été invité.
Il y a une maison de retraite ici.
C'est très triste. Les jeunes ne s'intéressent pas à ce qui se passe.
Si traîner est constitué de ces gens-là, la jeunesse est partie.
Les jeunes ménages.
Donc vous traîner va mourir.
So I'm sure Monday, I was hoping someday you'd be on your way to.
Le Grand Débat, c'était un reportage de Valérie Borst et Rémi Dibowski-Douatte, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Christian Guillon, à Anne-Marie Duruisseau et aux 52 participants du Grand Débat de Trenet. À Paris, merci à Xavier Ginoux, à Michel, à Doris, à Serge et à un autre Xavier. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Nino Lima, notre stagiaire.